Le podcast qui fait entendre la voix des femmes.
Par l'association Solidarité Femmes 49.
Avec Radio Campus Angers.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Porte-Voix, le podcast qui fait entendre la voix des femmes. Pour ce premier épisode, on est allé au festival Tout Feu Tout Flamme. C'était le 28 mars à Angers. Un festival féministe organisé par la maison de quartier Cartenay, le Bagarre Comedy Club et les Ardentes Club. À cette occasion, on a voulu parler de la place des femmes dans l'espace public. C'était justement le thème d'un atelier proposé par l'architecte Maya Bodino.
Toi, tu as fait une frise pour que les femmes puissent représenter leur trajet dans l'espace public aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est un atelier qui se fait tout au long de la journée, de 11h à 18h, et qui est en entrée libre. L'idée, c'est que chacune, chacun vienne témoigner un peu d'un trajet, d'un lieu en particulier qu'il ou elle fréquente dans l'espace public, et que sur ce trajet, on puisse ajouter un peu comme des filtres, comme des calques, avec ce qu'on ressent comme dangereux, comme pas sécurisant, comme un obstacle à notre vie, à notre quotidien, ce qui au contraire fait qu'on trouve un lieu agréable, plaisant, qu'on a envie d'y rester. Ce qui fait que on s'organise différemment en fait collectivement ou individuellement ce qu'on met en place pour pouvoir fréquenter un lieu et pas un autre, est-ce qu'on contourne, est-ce qu'on met de la musique, etc. Et enfin, comment on se déplace dans ce lieu-là ? Est-ce qu'on y va d'une traite ? Est-ce qu'on marque des arrêts ? Est-ce qu'on fait du vélo ? Est-ce qu'on y va en trottinette ? Est-ce qu'on est à pied ? Voilà, donc c'est toutes ces petites informations-là qui sont collectées sur une grande frise qui formera une carte collective et collaborative.
Qu'est-ce que tu peux en dire pour l'instant ? Qu'est-ce qui est ressorti de l'atelier aujourd'hui ?
J'ai l'impression que, à la base, les participantes qui viennent, parce que c'est un atelier qui est ouvert du coup aux femmes et aux personnes issues des minorités de genre, viennent avec l'idée de raconter un petit trajet quotidien en se disant « bon, c'est pas grand-chose, c'est juste la maison au travail ». Donc on commence par tracer ça et c'est assez symbolique en noir. Et puis en fait, en posant les choses progressivement, on a un petit retour réflexif en se disant « ah mais en fait c'est vrai que je passe pas par là parce que en fait il y a ça qui me gêne » ou « c'est vrai qu'en fait je prends ce trajet-là la journée mais la nuit je prends un autre » ou « c'est vrai qu'en fait je me déplace tout le temps à vélo parce que à pied c'est plus lent et du coup ça me met plus en situation de danger ». Donc c'est aussi un travail introspectif pour chaque participante et un retour un peu sur comment on utilise l'espace public. Et c'est aussi un temps pédagogique parce que j'ai eu notamment pas mal d'enfants et de petits garçons qui voulaient participer à l'atelier. Et du coup, ça a pu être l'occasion aussi d'expliquer pourquoi on faisait cet atelier et pourquoi certaines pouvaient se sentir mal, pas à l'aise dans certains lieux. Donc c'est un moment aussi de sensibilisation, je trouve.
Et l'idée de cette frise, c'est que tu disais tout à l'heure que tu allais pouvoir le cartographier. L'idée, c'est que ça en devienne quoi ?
Alors, pour le moment, il n'y a pas un projet abouti qui est attendu à la suite de ça, si ce n'est une exposition un peu de tous ces témoignages. Cette compilation, pour autant, elle m'apparaît hyper intéressante pour lancer un atelier. Je me dis que ça peut être un super outil en première lecture avec, je sais pas, j'imagine un public jeune, par exemple, de se dire, regardons un peu ce que des personnes anonymes ont raconté sur l'espace public. Qu'est-ce qu'il en ressort de commun? Qu'est-ce qui ressort d'exceptionnel? Est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce que à chaque fois, c'est des nouvelles choses qui sont ajoutées? Donc, je me dis que ça peut être un bon outil pour moi de travail, au final, pour lancer une discussion, faire naître un débat.
Et l'idée, c'est que tu puisses l'utiliser pour faire d'autres interventions, notamment tout à l'heure, tu disais auprès des jeunes. Est-ce que tu aimerais faire des interventions en milieu scolaire pour pouvoir parler aussi de ça, des stratégies que les femmes elles peuvent utiliser dans la rue, des choses comme ça ?
Ouais, je trouve ça super intéressant et important. C'est vrai que j'ai l'habitude d'intervenir plutôt avec des plus jeunes, mais qu'avec, par exemple, un public adolescent. Je trouverais ça hyper, hyper pertinent. Et puis que c'est un moment aussi où la mise en débat, elle est hyper intéressante parce qu'on peut y ajouter plein de degrés qui sont de l'ordre de l'intime, du collectif, de ce que fait le groupe, ce que je fais moi à titre perso. Et donc je pense que ça pourrait être un bon support à faire en milieu scolaire, extrascolaire, peut-être en collaboration avec des éducs de prévention, avec quelqu'un qui connaît aussi bien les jeunes et qui peut les mettre à l'aise dans leur prise de parole, quoi.
Donc c'est un projet ?
C'est un projet okay. qui naît et ça me permet aussi d'en faire le test ici. C'est quand même aussi un espace de test et de bienveillance, ce festival qui est plutôt agréable.
On avait pensé à quelques questions pour toi, Maya. On se posait la question, comment on pense les villes pour limiter le harcèlement de rue ou l'insécurité des femmes aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous donner des éléments ?
Ouais, globalement, il y a quand même pas mal de ressources qui sont utilisées par les concepteurs et conceptrices de villes, qui peuvent être soit des études, soit des enquêtes sociologiques qui sont faites auprès d'usagères, qui permettent après à l'architecte, au paysagiste, de prendre un parti pris qui soit pas dangereux pour les usagères d'un lieu. Et donc ça, c'est assez utilisé. Et puis après, on a des études qui sont faites plus spécifiquement sur certains quartiers. Ici, à Angers, notamment sur le quartier de Montplaisir, il y a eu une grande quantité de réflexions sur la place des femmes dans l'espace public, et notamment via le biais du sport. Comment les femmes ont une activité sportive dans l'espace public et quelle part ça prend par rapport aux hommes. Et donc, au-delà de la recherche scientifique, il y a eu aussi de l'expérimentation de si on installe tel mobilier sportif à tel endroit, est-ce que ça change la pratique des femmes ? Est-ce que ça en fait un lieu qui est exclusivement réservé aux femmes, ou est-ce qu'il y a de la mixité qui se crée ? Globalement, il y a aussi pas mal de phases de test quand il y a une conception d'un espace public, parce que selon les animations qui peuvent être... Enfin, l'espace public, il est conçu, et puis après, selon comment il est approprié par des associations, des habitants, par une impulsion aussi publique, fait que on va pas avoir les mêmes personnes qui vont fréquenter le lieu, quoi.
Du coup, moi, ça me faisait écho à quand tu parles d'études justement qui sont faites, notamment pour la conception, pour limiter le fait que les espaces soient plus occupés par les hommes que par les femmes. On se demandait justement si pendant les études d'architecture, il y avait des modules qui étaient abordés pour justement penser la ville pour toutes et tous.
Alors, je pense que c'est très varié. En France, il y a 21 ou 22 écoles d'architecture publiques, et c'est autant de teintes d'apprentissage d'architecture. Donc ça, c'est pour l'architecture, mais du coup, après, il y a des écoles d'urbanisme et de paysage. Donc je ne pourrais pas apporter une réponse globale. Ce que je peux dire, c'est que moi, de l'école dont je suis issue, il y avait une spécialité quand même sur l'espace habité et comment prendre en compte l'habitant, l'habitante dans la conception. Et en ça, du coup, la place des femmes pouvait être abordée, mais je dirais pas que c'était un focus. Et je dirais pas que c'était une attention plus marquée que sur d'autres. Là où aussi je marquerai un point de vigilance, c'est sur la représentation en fait finalement des professionnels qui conçoivent les espaces publics. Il s'avère que en fait on est quand même beaucoup face à des hommes et qui plus est à d'une tranche d'âge d'hommes. Enfin, on sait que l'accès à la commande et à la réalisation en architecture ou en paysage ou en urbanisme, elle est quand même au bout d'un certain nombre d'années d'expérience. Et donc c'est un biais aussi de conception, parce qu'on conçoit de son point de vue avec son raisonnement, et que du coup des fois c'est pas représentatif des futurs usagers ou usagères d'un lieu, quoi.
Ouais, c'est ça. Nous, on voyait que sur 30 000 architectes de France, il n'y avait que 30% de femmes et seulement 8% qui sont chefs d'agence. Donc les chefs d'agence, tu me dis si je me trompe, mais c'est justement ceux qui vont décider un peu de la réalisation et de la conception.
Oui, qui vont mener en fait un projet, qui vont constituer une équipe au sein de l'agence pour après mener un projet à bien. C'est surtout aussi chef d'agence, ça veut dire qu'il y a une forme de hiérarchie et donc une ancienneté dans l'agence qui s'est faite. Ancienneté veut dire présence, veut dire... pas de congé de maternité, etc. Donc effectivement, c'est des gens qui sont là et qui sont ancrés depuis un moment. Je pense que ce qui est frappant, c'est qu'il faudrait regarder le nombre d'élèves féminines qu'il y a en école d'architecture. Si on prend l'exemple de l'école d'architecture, je sais que pour ma part, dans l'école où j'étais, on était en quasi-mixité, voire on était plus de femmes que d'hommes. Et c'était quelque chose qui s'était inversé par rapport à il y a 20 ans où, voilà, on était plus représentés, mais en fait, la part d'élèves qui sortent d'école d'architecture et qui, après, travaillent en agence est assez minime. Il y a plein d'autres métiers, et j'en suis l'exemple. Moi, je fais de la médiation en architecture. Je ne dessine pas du tout de projet et je n'ai pas la vocation de le faire. Et donc, du coup, il y a plein de métiers, par exemple, dans le public, dans les services publics, dans les collectivités, dans des associations, etc. Et donc, c'est là où, en fait, finalement, sont aussi plus représentés les profils féminins qui sont diplômés, quoi.
Tu parlais d'un travail qui a été réalisé à mon plaisir sur la place des femmes dans l'espace public et notamment dans l'accès au sport dans l'espace public. Qu'est-ce qui est ressorti de ce travail? Qu'est-ce qui fait que les femmes se sentent autorisées à faire du sport dans l'espace public?
J'ai pas assez de données sur ce sujet-là, je suis désolée. Je sais juste qu'on en est à l'étape d'expérimentation, d'installation de mobilier sportif sur le quartier. Et qu'il y a quand même un espace public qui vient d'être livré sur mon plaisir et qui rebalance un peu le rapport fille-garçon. C'est le grand parc de jeux qui a été livré, qui est bleu là, et avec plein de jeux différents où on voit qu'il y a plein de, notamment de jeunes filles qui viennent l'occuper, qui viennent pour bronzer, pour traîner, pour papoter, chose qui était inenvisageable jusqu'à là, quoi.
Et qu'est-ce qui fait qu'elles viennent se poser là? C'est parce que ça a été pensé justement de cette manière-là, j'imagine.
Ça a été pensé de cette manière-là. Il y a une question de visibilité, de pouvoir avoir la vue sur un espace assez large, donc voir les personnes arriver et puis avoir une forme de covoyance, savoir qu'il y a d'autres personnes qui peuvent voir qu'on est dans le coin et qu'on existe, quoi. Il y a aussi la question du mobilier, avoir du mobilier adapté pour se retrouver. On sait que de plus en plus, on a des espaces urbains qui sont quand même assez hostiles avec... une limitation de l'installation par des barrières, par des bancs qui sont assez contraints. Et donc, du coup, là, d'avoir des installations qui permettent de se retrouver autour d'une table, d'avoir des espaces circulaires, d'avoir aussi une mixité d'âge. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir aussi une fratrie avec des grandes sœurs qui viennent avec des plus petits frères et sœurs à surveiller, mais qui, du coup, peuvent en profiter pour retrouver des amis. Enfin, il y a cette notion-là aussi qui rentre en compte.
Et ce que tu viens de citer, les éléments que tu viens de citer, c'est quelque chose qui ressort aussi de l'atelier que tu mènes aujourd'hui avec la frise. Qu'est-ce qui fait que les gens se sentent à l'aise ou pas à l'aise dans tel ou tel espace public, et tout particulièrement les femmes et les minorités de genre ?
Ce qui peut faire balancer un peu vers un endroit où j'ai envie d'aller et pas aller, ça va être ce qui ressort là, c'est pas mal, c'est est-ce que le lieu est déjà fréquenté ou est-ce que c'est un lieu isolé ? Est-ce qu'il y a du passage? S'il m'arrive quelque chose, est-ce que quelqu'un peut intervenir? La question de la lumière qui revient très souvent et qui pourtant est assez ambiguë, parce qu'il y a plusieurs études qui montrent que le taux de d'agressivité n'est pas proportionnel au taux de lumière, et donc du coup qu'il y a plein d'autres facteurs qui jouent, mais en fait si un endroit n'est pas éclairé, il y a plein de personnes qui ne se sentent pas safe pour le fréquenter. Il y a également ce qu'on traverse en fait le long du trajet et ce qu'il y a comme repère le long du trajet notamment. Est-ce qu'il y a des lieux qui sont exclusivement occupés par des hommes sur le trajet? Là, ce qui est pas mal cité quand même, c'est des bars, des cafés où il y a des hommes en extérieur et du coup, qui peuvent avoir un regard insistant et qui fait qu'on n'a pas envie de passer par là, qu'on a envie de soit détourner son trajet, soit de baisser les yeux, soit de marcher plus vite. Comme ça.
Merci Maya. On a la chance autour de cette table d'avoir d'autres personnes. On aurait envie de vous poser des questions maintenant, notamment est-ce que vous vous sentez à l'aise dans l'espace public ?
Alors moi je n'habite pas en ville, donc je participe sur cette idée de réfléchir à la place des femmes dans l'espace public, mais de ma perspective de vigneronne du Maine-et-Loire. Donc habitante d'un petit village, mais j'ai longtemps été urbaine, donc ça me rappelle plein de choses. moi, ce que je peux dire par rapport à ce sujet, c'est que alors, la première idée qui me vient comme ça, c'est des déplacements en tracteur. Voilà, c'est un autre type de déplacement. Alors, le déplacement lui-même, on ne va pas forcément être attendu vraiment au tournant. Par contre, c'est quand on arrive à la parcelle et qu'il y a des voisins qui sont à travailler, forcément, on va être absolument épiés. Et je ne sais pas si vous avez lu « Il est où le patron ?», une super BD qui parle de ça, j'attends les autres tomes. ce qu'elle décrit est très juste, c'est-à-dire qu'on arrive à la parcelle et un travail du sol ou un travail autre qu'on sait faire très bien avec l'outil tracté, tout d'un coup, parce qu'on est regardé, parce que du coup, les gens vraiment s'arrêtent et regardent, eh bien, on va perdre nos moyens très, très, de manière fréquente, en fait. Alors même que c'est un peu le comble, on leur donne un peu le bâton pour se faire battre. Et il se peut qu'on on foire son travail devant eux et on s'en veut encore plus. Ça m'évoque ça, mais...
Est-ce que toi, y a eu des situations où parfois tu t'es sentie mal à l'aise dans des endroits où, par exemple, des endroits qui étaient uniquement fréquentés par des hommes, est-ce que ça t'est déjà arrivé ?
Un petit peu. En fait, on a fondé un collectif qui parle justement de donner de la place aux femmes dans le monde du vin et aux minorités de genre, même si dans le vin, il n'y a pas énormément de représentation de personnes sexisées autrement que sous la soupape féminine, de femmes, je veux dire. Donc du coup, VTF, qui est ce collectif qu'on a cofondé, on l'a créé justement parce qu'on avait envie de se sentir à l'aise et à notre place dans ces mondes qui sont très masculins et aussi sur des symboles du patriarcat, qui est le monde du vin. Donc autant l'alcool que l'élitisme aussi qui est dans ce milieu-là. Et tout un endroit aussi un peu de boys club dans les villes où se trouvent nos principaux distributeurs. Donc c'était un collectif qui a vu le jour au salon Canon, qui est un salon de vigneronnes à Nantes, où on se disait, mais en fait c'est tellement génial d'être ici, de se sentir totalement à l'aise, de ne pas avoir les questions habituelles de... on ne demande pas où est le vigneron, mais c'est vraiment... pas loin. On va du coup, quand il y a un homme sur notre stand, vraiment avoir le cliché de on est la vendeuse et le vigneron, on lui pose les questions techniques. Donc c'est vraiment encore le cas aujourd'hui. Hein. Je parle pas du tout d'il y a 107 ans. C'est une réalité et je pense pour les femmes en couple hétéro, c'est ça peut être assez compliqué. Cet aspect-là. Et donc, c'était l'envie de prolonger ce salon qui ne dure que 2 jours sur toute l'année. Et voilà, donc ça a vu le jour il y a à peu près 3 ans. Et ces questions-là sont centrales pour nous.
On poursuit cet échange sur la place des femmes dans l'espace public après une pause musicale. On écoute Croc Top d'Aloïs Sauvage.
De toutes mes copines, compas dit oui un jour à un débile. Hémoglobine de toutes mes copines, pourquoi tu penses qu'on colle des affiches? Si serre à l'écoute, mettre le crop top. Coup de cross boy dans les couilles. Si serre à l'écoute, mettre le crop top. Mal au crâne, aïe sur la cata. Mal dominant, pour qui tu te prends? Lundi au dimanche, vas-y redescends. Le front dedans, pas concluant. Vraiment pas content, donc tombe dans la tente. Insoumise, pourquoi faire? Pour être libre, pour faire taire la violence du système, je l'espère. Que s'ouvrir à la nouvelle ère. Insoumise, pourquoi faire? Pour la vie, pour la paix, pas la haine, pas la guerre comme un frère. Je te vois quand tu me respectes. Non, c'est non, c'est non. Toutes mes copines, compas dit oui un jour à un débile. Hémoglobine de toutes mes copines, pourquoi tu penses qu'on colle des affiches? Tu fais le caïd, tu fais le malin. Tu veux le coïd, tu veux le calon. Ah, tu décides, ah, tu obtiens. Viens par ici, je te fais le dessin. Sorcière, ah, sorcière, sorcière, yeah, sorcière.
sera fascinant. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cris ni moindre bain de sang. Comment est-on encore bloqué dans le monde d'avant? L'égalité avec toi, mon ami, mon amant. Non, c'est non, c'est non, c'est non. Quand on dit
le podcast qui fait entendre la voix des femmes
sur le 103 FM.
Quelqu'un d'autre nous a rejoint là sur l'enregistrement. Est-ce que tu te sens bien, toi, dans l'espace public?
Alors, espace public, est-ce que les bars font partie des espaces publics?
Enfin, si je peux me permettre, du coup, les bars sont des espaces privés. Ouais. Espace public, c'est un espace extérieur qui est vraiment accessible à tous et qui normalement appartient à la collectivité.
Exactement. Okay. Bah, en fait, plutôt cette référence.
On s'est posé la question tout à l'heure par quoi qu'est-ce qu'on entendait par espace public? Nous, c'était vraiment l'idée d'un espace où il y a des personnes, où on est confronté à des gens, que ce soit la rue, les bars, les salles de concert, trucs comme ça.
Les espaces partagés, finalement.
Ouais, partagés au collectif.
Oui, ouais.
Ok. Alors, est-ce que je me sens à l'aise dans l'espace public? Alors, moi, ça me parle un comportement où on évite certains espaces où on ne se sent pas en sécurité. Voilà, un café ou un bar où il y a plusieurs hommes, où déjà de loin, on est déjà regardé. Donc, voilà, on ne va pas passer à côté parce que c'est malaisant. Surtout si c'est des hommes âgés, voilà, c'est encore plus malaisant. Après, dans les bars, moi j'ai eu l'expérience plusieurs fois. J'étais avec mes copines ou des amis, enfin, en groupe. On est souvent en groupe quand on va dans les bars quand même. Et plusieurs fois, j'ai eu des anecdotes où en fait, je voyais par exemple une fille qui était pas mal alcoolisée, qui se rendait pas compte que son chemisier ou son haut était complètement enlevé. Et du coup, tout le monde l'a laissé faire en fait. Et dans le sens où moi, je suis allée la voir une fois, ça m'est arrivé une fois ou deux, je suis allée voir cette femme et je lui ai dit, je crois que ton haut, il y a juste un bouton ou deux qui s'est enlevé. Elle m'a dit, ah mince, j'avais pas vu. Et donc du coup, voilà, je l'ai caché, enfin on s'est caché mutuellement, juste pour éviter qu'en fait, quelqu'un, en fait c'est peut-être la surprotection, mais c'est aussi être vigilant à ce qu'elle soit pas importunée parce qu'un homme penserait que... Alors que non, ça arrive que des fois dans nos vêtements, une épaule ou un haut se dégage sans qu'on le souhaite, en fait. Donc, c'est plutôt un regard, une vigilance que je remarque qu'on a les unes avec les autres. Voilà, ou la jupe qui se coince dans le collant.
Oh là là, ça nous est tous arrivé.
Et on marche comme ça, danger, et puis on est bien, on a le soleil. Et puis, moi, je fais toc-toc là sur l'épaule. Je dis, je crois que merci beaucoup. J'ai dit, mais il n'y a pas de souci, on est pareil. Donc voilà, c'est plus ces vigilances là que voilà, j'essaie d'être, mais on est un peu toutes. Et puis, mais pareil, c'est surtout dans les bars quand même, mine de rien, les jeudis soirs ou enfin les soirs de semaine où les femmes, pareil, certaines femmes, et comme tout à chacun, on a des fois un peu trop bu et des situation d'ivresse, et là je vérifie toujours si elle est bien accompagnée, est-ce que ses potes sont à côté ou pas, et si ses potes sont pas à côté, qui l'aident, quoi. Et on est pas mal confronté à ces situations là où on est toujours vigilante à ce que ça va, tu rentres pas seule ou est-ce que et voilà, c'est plus ces moments de vigilance comme ça, on est toutes les uns et les autres, les unes et les autres vigilantes. Et un truc qui m'a interpellée, c'est que lors de la dernière manifestation là, du 7 mars dernier, au moment de l'introduction, donc ils nous ont expliqué voilà, comment ça allait se passer, par où on allait passer. Et puis en fin de manifestation, ils nous ont dit surtout ne rentrez pas seul. Mais on allait terminer en fait, la marche aux alentours de 13 heures. Et moi, j'ai appuyé sur... Enfin, j'ai toqué l'épaule de Claire, là, une de mes amies, et je lui ai dit, mais comment ça, on doit faire attention pour rentrer chez soi? Je comprends pas. En fait, j'étais vraiment... encore qu'on se le dit à tout le monde, à toutes et à tous, fais attention, on rentre bien, ou on se raccompagne toujours entre amis. Mais là, il était 13h de l'après-midi, et quelqu'un nous a dit, surtout, faites attention, rentrez pas seule. Moi, je suis tombée un peu choquée. Et je dis, oui, bah ok, d'accord, oui, l'un dans l'autre, ça a du sens. Mais quand même, en fait, voilà, même la journée, on doit faire attention, quoi. Et au-delà de ça, ce truc de faites attention dans l'espace public, je sais que mes parents me le disent, j'ai un frère qui est juste 2 ans de plus que moi, mais j'ai beau avoir 30 ans, mes parents me disent toujours, fais attention. Et moi, en rigolant, je dis, à quoi? Est-ce que c'est à nous de faire attention? Ou est-ce que c'est aux hommes de... Je sais pas, parce qu'il y a un travail aussi à faire avec eux-mêmes. Pourquoi c'est nous qui devons toujours faire attention? Et c'est ça qui angoisse. Et dès toute petite, jusqu'à là, 30 ans, fais attention. À quoi? Bah voilà, c'est tout. Je sais pas.
Ouais, carrément. Moi, ça me fait écho à ce que tu dis sur le sentiment d'insécurité, en fait, où on nous apprend à être insécurisés. Mais dès le plus jeune âge, enfin, en tout cas moi j'ai ce souvenir là effectivement, déjà j'avais pas le droit de faire les mêmes choses que mon frère au même âge qu'il avait que moi quoi. Faut pas que tu sortes toute seule, faut que je te regarde quand tu vas à l'école pour être sûre que t'arrives bien jusqu'à l'école, tu vois, des trucs où, parce qu'on nous apprend à avoir peur en permanence de quelque chose qui finalement dans les statistiques, enfin, je sais pas si tout le monde est au fait, mais en fait, dans les statistiques, les violences, elles ont lieu, dans la majorité des cas, par notre entourage. Donc en fait, on nous apprend à être insécurisés, et à la fois, pas de là où est le danger.
Si je peux rebondir, quand ma petite sœur a eu 13 ans, il y a eu vraiment, donc moi j'étais adulte, il y a vraiment une envie de faire quelque chose, parce que, en fait... tu te dis à la fois, oui, je comprends ce que tu disais, il ne faut pas non plus transmettre des peurs. L'idée, c'est que les autres ne doivent pas agresser. Mais en fait, il y a quand même une angoisse de tout ce qui a pu t'arriver à toi dans l'espace public, en l'occurrence Paris. Et du coup, je me souviens que j'ai acheté le jeu « Moi, c'est Madame », que vous connaissez peut-être, qui vient d'un podcast où... les personnes parlaient des témoignages reçus sur comment vous avez répondu au dernier harcèlement de rue avec des punchlines, dont quelqu'un qui répondait à « Hey, mademoiselle » par « Déjà, moi, c'est madame ». Et ensuite, je ne sais pas ce qu'elle a déroulé, mais super. Et donc, c'était un jeu comme ça qui permettait de s'exercer un petit peu à l'improvisation, éventuellement de punchline ou voilà, d'autres actions. On pouvait appeler une amie, enfin, comment dire, à la rescousse, ou alors s'en aller. Enfin, il y avait bien sûr plein d'autres options que de répondre. Mais voilà, pour essayer de dédramatiser un peu le sujet et aussi de se dire comment on peut reprendre un peu la main sur certaines choses qui arrivent et qui vont arriver, quoi.
Ce que tu disais, ça m'a fait écho parce que j'ai intégré un nouveau travail là. Puis comme dans tout organisme, on a eu une sensibilisation au harcèlement sexuel et harcèlement moral au travail. Et là, un inventeur a créé un sifflet.
Anti-relou.
Anti-relou. Le sifflet anti-relou. Incroyable. Donc ça aussi, ça va être sur notre porte-clés, les filles. Il va falloir qu'on se dote d'un sifflet anti-relou. Enfin, à quel moment on va éduquer les hommes, en fait? Et les petits garçons? Pourquoi c'est toujours à nous? Vraiment, on a été gratuit. Donc tant mieux. Mais c'est ça, en fait. Je suis dans mon bureau. Il y a mon collègue relou qui, pour la énième fois de la journée, essaie d'avoir un ticket avec moi. Je lui fais comprendre poliment que c'est mort. Dans l'œuf déjà, enfin c'est mort, genre il me plaît pas, ça se voit déjà sur mon visage, mais non. S'il est trop relou, je siffle, et comme ça mes collègues, non mais pardon, c'est ça. Je comprends pas pourquoi on met pas plus de moyens dans tout ça, quoi. Auprès des hommes.
Je fais écho à ce que tu dis, effectivement c'est qu'en fait on use beaucoup de moyens
pour que les femmes trouvent des stratégies pour éviter de se retrouver en situation d'insécurité. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on est toujours en train de proposer des nouveaux outils pour les femmes, pour qu'elles se sentent bien dans la rue. Mais le problème ne sont pas les hommes, finalement. En fait, il y a un gros travail de prévention et de faire et de sensibilisation. Alors moi, un petit instant promo avec Candice, on fait partie de l'association Solidarité Femmes 49. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est une association qui aide et accompagne les femmes victimes de violences au sein de son couple. Et on fait de la prévention en milieu scolaire. Et on vient aussi parler notamment des violences sexistes et en quoi ces violences sexistes et sexuelles sont un terreau aux violences conjugales. Parce qu'en fait, si une femme est déjà victime dans la rue, dans son travail, elle sera également victime, elle acceptera d'autant plus les choses dans la sphère intime. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu effarant. Auprès des jeunes, il y a énormément de déconstruction à faire. Et il faut évidemment mettre le paquet là-dessus. L'argent est le nerf de la guerre, mais en fait, il faudrait effectivement faire d'autant plus de prévention. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aux femmes d'avoir peur, mais c'est bien aux petits garçons et aux hommes d'arrêter de faire n'importe quoi dans la rue, notamment, je pense.
Effectivement, nous, avec Solidarité Femmes, on intervient notamment dans des collèges, dans des lycées. On aimerait bien même aller dans des établissements scolaires encore plus jeunes pour pouvoir, dès le départ des premières années de socialisation, en fait, venir casser justement ces stéréotypes et toutes ces petites phrases qu'on entend dès qu'on est jeune, en fait, du style « ouais, tu cours comme une fille, t'es pas forte au sport, tu chiales comme une fille », enfin voilà, des choses qu'on n'a pas du tout envie d'entendre et qui, mine de rien, viennent construire complètement cette idée de femme fragile et l'idée qu'il y a une domination masculine de toute façon dès le départ, en fait. Donc effectivement, je rejoins Camille, c'est vraiment le nerf de la guerre, mais mine de rien, l'éducatif finalement, dès le plus jeune âge sur ces questions-là et sur les questions des violences sexistes et sexuelles. Ouais.
On a une nouvelle personne qui est arrivée autour de la table. Est-ce que tu peux nous donner ton prénom ?
Bonjour, moi c'est Lucille.
Merci Lucille. Comment tu te sentirais dans un endroit où il n'y a que des mecs, toi ?
Moi, dans l'espace public, globalement, je suis assez à l'aise. Je rentre n'importe quelle heure de jour, de la nuit, à mon domicile sans avoir trop de crainte. Après, j'ai choisi aussi mon domicile dans un quartier où je savais aussi me sentir quand même assez safe. Je pense que c'est une problématique de beaucoup de femmes de se dire « j'habite à tel endroit » parce que c'est OK pour moi.
Stratégie d'évitement.
Ouais, bien sûr. Après, moi, il y a toujours un petit côté à pas lâcher. C'est-à-dire, il y a que des mecs, OK, mais moi, j'ai ma place. Et en fait, à pas forcément éviter s'il y a une terrasse avec que des mecs, ou un bar où il y a que des mecs, ou un endroit où il y a... ou même un autre espace où c'est que des hommes, à y aller. Parce que justement, à leur montrer que en fait, vous êtes là, ok, mais moi, j'ai pas peur, et moi, en fait, je viens parce que j'ai besoin de venir, parce que voilà, parce que c'est mon trajet, parce que j'ai pas envie de faire un détour, et parce qu'en fait, j'ai toute ma place et ma légitimité à être là. Donc, voilà.
C'est fort ce que tu dis. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de comment on éduque nos garçons, mais je pense qu'il y a aussi comment on redonne du pouvoir à nos filles. Et pareil, dès le plus jeune âge, quoi. Comment on leur apprend à prendre l'espace, à oser, à pas baisser les yeux, à vraiment à foncer, quoi. Et ouais, c'est super ce que tu as dit. En tout cas, moi, ça me parle grave.
Un petit truc aussi, je pense que certaines le font déjà, mais comme dans l'espace public, on est beaucoup regardé, justement, si on traverse un espace où il n'y a que des hommes. Je me souviens que quand j'ai décidé de, du coup, ne plus être regardée, mais moi, les regarder, ça a changé énormément de choses dans la dynamique qui se passait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si on sent des regards insistants quand on passe, de se mettre à soi-même les regarder, sans détourner les yeux et tout ça, il se passe vraiment des choses. Je vous conseille d'essayer.
Mais tu vois, j'y avais pas pensé du tout, mais je pense qu'en effet, t'as raison. La question du regard, il doit être hyper important. J'y avais pas pris conscience avant que tu le dises, mais... au-delà d'une manière d'être, je pense qu'en effet, il y a une posture, il y a un... Mais... Je pense qu'en fait, la difficulté, elle est toujours que on est naturel, on est voilà, c'est de la spontanéité, donc c'est pas forcément évident de se dire faut être comme ci comme ça. Et puis en fait, je sais pas si c'est un peu l'âge ou l'expérience qui fait que on prend un peu plus confiance aussi dans l'espace public. Peut-être que quand moi, je pense que quand j'avais, j'étais étudiante, une vingtaine d'années, je pense que j'avais peut-être pas aussi la même assurance. Et pourtant, on parlait déjà du harcèlement de rue. Enfin, c'était les prémices. Hein. Moi, je me souviens quand même que ces sujets-là sont quand même vachement aujourd'hui parlés, discutés. On parlait tout à l'heure, tu parlais d'un jeu, mais il y a aussi vachement de bouquins, de podcasts sur. Même des posts Instagram, enfin sur les réseaux sociaux, on en parle vachement sur trouver des outils pour justement comment on intervient, comment aller secourir une nana qui vient se faire emmerder dans un transport en commun. Moi, je pense quand j'étais étudiante, j'ai pas de souvenirs en tête, mais je pense que j'ai dû voir des choses et en fait à pas avoir les outils pour intervenir. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'on a les outils et on les partage, on diffuse, et ça c'est super chouette parce que je pense que à nous toutes, on arrivera toutes à trouver d'autres manières de faire qui font que même si l'espace public, pour revenir à votre sujet qui était l'espace public, qui n'est pas forcément pensé parfois par les femmes, mais qui est surtout, c'est vrai, pensé par les hommes. Et je dirais même, je rajouterais par rapport à ce que disait Maya tout à l'heure, parce que c'est beaucoup d'hommes, en effet, qui sont dans la conception, parce que moi, je suis urbaniste, alors du coup, ça me parlait un petit peu. En fait, il y a aussi le sujet de derrière qui décide de l'espace public. Et c'est les élus, en fait, derrière qui décident. Le sujet, c'est que des femmes mères ou des femmes, je dirais, à des postes d'adjoints un peu stratégiques, et notamment l'urbanisme, il n'y en a pas tant que ça. Et en fait, on a beau avoir des architectes sur Angers, on en a des femmes architectes qui sont directrices de cabinet et qui font de la conception et qui ont des supervisions hyper modernes et tout, on en a. Mais le sujet derrière, c'est que on a beau concevoir l'espace public, derrière, c'est les élus qui décident. Et on a aussi un manque de représentation dans le monde politique et dans les instances des collectivités. Donc c'est aussi ça qui fait que, au final, on a des espaces publics qui sont parfois un peu ratés. Et puis il faut se dire qu'un espace public, ça bouge aussi. C'est que on parle de l'espace public en général, mais la ville, elle a été conçue. On ne va pas se faire un cours d'urbain maintenant, mais c'est très long. Ça bouge, ça change. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une profession qui se féminise vachement, donc ça évolue. Mais on vit aussi avec les espaces publics qui ont été conçus il y a 20, 40, 50, 60 ans. Donc il faut aussi tenir compte de tout ça.
Tu dis que ça a énormément bougé, ça veut dire que peut-on avoir l'espoir que les femmes investissent beaucoup plus les espaces d'aménagement public? On pensait aux agraires, à tous ces trucs un peu sportifs où souvent c'est beaucoup d'hommes qui les occupent. Peut-on avoir cet espoir-là?
Moi je pense qu'il ne faut pas du tout lâcher là-dessus. J'ai un exemple en tête de city-stade. Alors les city-stades, c'est l'espèce de petit stade en pleine ville. Ça a été le gros boom dans les années 2000. On en faisait partout, en ville, y compris même à la campagne. Dans les espaces ruraux, dans les petites communes, il y avait les city-stades parce que, en termes de coût, ça coûtait pas trop cher. Où on a des endroits, et notamment dans des quartiers, moi j'avais vu ça, que les filles ont dit « Ah non, mais en fait, nous aussi on veut faire du basket. Nous aussi on veut faire du foot. » Donc en fait, on va mettre en place un planning. Parce qu'en fait, nous là, on veut jouer. Donc les gars, vous êtes gentils, vous aviez l'espace tout le temps pour vous. Maintenant, on va mettre en place un planning et tout. Il y a des choses qui se passent. Alors, c'est hyper, si vous voulez, pas, c'est peu documenté, il y a peu de sujets, ça reste presque un peu à une question de territoire, en fait. C'est que les femmes reprennent, je pense, le territoire un peu partout. Il y a les femmes, aujourd'hui, elles prennent la place. Elles prennent de plus en plus de place. Donc, je pense qu'on peut se dire que ça va bouger.
C'est super ce que tu dis, ça fait un peu le lien avec notre conclusion. En fait, là, le festival, il se passe dans le cadre notamment de la journée du 8 mars, donc la journée de lutte pour les droits des femmes. Et du coup, on prend de la place cette journée-là, puisqu'on va manifester. On va manifester en collectif. Et je sais pas si vous participez, moi perso, je participe.
Bien sûr.
Et vraiment, c'est un super, super moment. Et reprendre la rue, c'est hyper important. C'est comment on lutte aujourd'hui, comment on reprend finalement des espaces qu'on nous a pris.
Et comment les femmes, elles peuvent occuper l'espace public.
Ouais.
Et on refait un peu lien à Solidarité Femmes, mais on propose aux femmes, sur les manifestations du 8 mars et du 25 novembre, donc la dernière, donc c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. En fait, on propose aux femmes de participer à la marche. On essaie de leur expliquer en quoi cette journée, voilà comment elle est arrivée historiquement, en quoi elle fait écho aux droits des femmes. Et en fait, on voit aussi des femmes que nous, on accompagne manifester avec des pancartes qu'elles réalisent. Alors, souvent, on a des slogans, « je suis pas ta poupée, je suis pas ta chose, c'est fini les violences », tout ça. Et en fait, c'est assez fort parce qu'on permet aux femmes qui, victimes de violences, se permettaient pas en fait, de prendre la place dans la rue, militer pour leurs droits, parce qu'en fait, liées au contexte de violence conjugale, elles rasaient les murs, elles se retournaient fréquemment parce qu'elles avaient peur que l'auteur de violence les suive. Et donc, en fait, c'est qu'elles puissent, la tête haute, marcher dans la rue avec une pancarte et crier fort leur slogan, et puis vraiment être fières d'elles, je vous jure que ça fait vraiment quelque chose. Et du coup, voilà, c'est aussi l'importance que les femmes, elles reprennent la place dans la rue.
Ouais, c'est ça. On est vraiment face à un public, nous en plus à Solidarité Femmes, qui vraiment se cache. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont tellement peur de croiser l'auteur des violences qu'elles ne sortent pas. Ou en tout cas, elles veulent sortir absolument accompagnées. Donc moi, je l'ai animé cet atelier-là. Et effectivement, c'est un moment vraiment très très fort. Parce que déjà, juste de travailler ensemble des slogans, de juste d'identifier ce qu'elles ont envie de dire, ce qu'elles n'osent pas dire individuellement, mais le porter avec le collectif, c'est juste incroyable, effectivement.
Vous venez d'écouter
Porte-voix, le podcast qui fait entendre la voix des femmes
par l'association Solidarité Femmes 49.
Vous pouvez réécouter cet épisode
et tous les autres
sur le www.radiocampusangers.com
et sur toutes les plateformes de podcasts.